feu. Alors, est-ce que vous avez déjà désobéi à un ordre? Par exemple, est-ce que vous avez déjà désobéi à vos parents? Est-ce que vous avez déjà considéré que votre patron avait tort et que vous alliez suivre votre décision, votre logique, votre instinct et pas celle de votre chef? Tout cela nous arrive bien souvent. C'est dur d'obéir. Est-ce que vous ne ressentez pas comme un bouillonnement intérieur et un désir de révolte face à certaines décisions de notre gouvernement ou des gouvernements précédents? Et on pourrait parfois se laisser rêver à un gouvernement chrétien. Si seulement notre président allait à l'église tous les dimanches. Si seulement son premier ministre commençait ses journées par prier Dieu de lui donner la sagesse de bien gérer le pays. Si seulement notre ministre de l'Éducation nationale cherchait à transmettre les valeurs chrétiennes, de l'amour du prochain, du respect de la vie dans sa réforme des programmes scolaires. Et puis lorsque l'on se réveille après un tel rêve, car oui, cela n'était qu'un rêve, on se demande quel comportement avoir en tant que chrétien face à une autorité païenne. On pourrait dire une autorité ouvertement athée. Cette question n'est pas nouvelle. Les gouvernements chrétiens ont été rares dans l'histoire ou ont été bien décevants. Les chrétiens de tous les siècles se sont demandé quelle attitude avoir face à un gouvernement païen. Vous imaginez bien que cette question a animé les conversations des chrétiens lors de l'avènement du nazisme en Allemagne. Si nous sommes chrétiens, si nous avons une foi personnelle en Jésus, Dieu est notre Père. C'est à lui que va notre allégeance et notre obéissance. C'est lui notre Maître. Mais alors, que fait-on de nos rois, de nos présidents, de nos ministres, de nos députés? Est-il juste de soutenir l'État en payant des impôts, alors que ceux-ci financent des guerres parfois injustes, ou des IVG pour lesquelles de nombreux chrétiens sont en désaccord? Est-il juste de financer des gouvernements qui gaspillent l'argent public, ou des chefs d'État qui se retournent contre les chrétiens et qui les persécutent? Eh bien, le texte d'aujourd'hui répond à cette question. Cette question du rapport des chrétiens avec les autorités. Et il nous enseigne que le chrétien est un citoyen obéissant et respectueux. On va donc lire Romains 13, versets 1 à 7. Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour de bonnes actions, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Avant de poursuivre, on va prier. Merci notre Dieu de nous avoir transmis la Bible qui est ta parole et qui nous parle encore aujourd'hui. Ta parole est une lampe qui éclaire notre chemin et qui nous montre la vérité. Tu l'as inspiré pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner dans ta justice. Et nous te prions qu'elle puisse accomplir cette œuvre efficace à nouveau aujourd'hui dans nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, instruis-nous, corrige-nous, parle-nous. Et aide-nous à bien comprendre ce que ce passage a à nous dire. Amen. Alors la première chose que ce texte nous dit, c'est que les autorités viennent de Dieu et qu'à ce titre, nous devons leur être soumis. En bon citoyen, Le chrétien doit donc être soumis aux autorités politiques car elles ont été instituées par Dieu lui-même. Alors il nous vient tous, évidemment, à l'esprit la situation d'un gouvernement malfaisant, du régime nazi par exemple. Comment un tel gouvernement peut-il venir de Dieu, être institué par Dieu ? Il doit bien y avoir des exceptions à ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce passage, n'est-ce pas ? Mais rien ne laisse supposer qu'il y ait de telles exceptions. Alors nous verrons plus tard l'attitude à avoir face à un gouvernement qui pratique le mal, mais ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, aux chrétiens de l'église de Rome, à l'époque d'un des empereurs les plus cruels et tyranniques de l'histoire, Néron. Néron, au moment de l'écriture de cette lettre, n'avait pas encore accompli ses actions les plus horribles, comme par exemple, alors là, les âmes sensibles, je vous invite à vous boucher les oreilles, celle d'empaler des hommes, de préférence des chrétiens, et de les transformer en torches après les avoir recouverts de goudron afin d'éclairer ses jardins. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. On voit bien que Néron était un dictateur cruel et sanguinaire. Et pourtant, l'Esprit de Dieu qui inspirait Paul dans la rédaction de cette lettre savait très bien ce qui attendait l'Église de Rome et les persécutions qu'allait mener cet empereur Néron. Et c'est certainement pour les préparer justement à ce qui allait leur arriver que Paul leur adresse de tels propos. C'est dans ce contexte-là que Paul écrit et qu'il enseigne aux Romains à être soumis aux autorités, à leur obéir, à les respecter. Car le chrétien est un citoyen obéissant et respectueux. Et donc à nous qui lisons aujourd'hui cette lettre, sous un gouvernement bien plus bienveillant que ne l'était Néron. Cet enseignement nous concerne directement. Dieu nous demande d'être soumis. Il s'agit bien sûr d'une soumission qui ne se limite pas aux autorités politiques et judiciaires, mais à toute autorité. La soumission est demandée aux enfants vis-à-vis de leurs parents, aux employés vis-à-vis de leurs patrons, aux membres de l'Église vis-à-vis du pasteur et des anciens. Et cette soumission qui nous est demandée n'est pas une résignation. Il ne nous est pas demandé d'obéir en se disant « De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis bien obligé d'aller me coucher quand mes parents me le disent. » Je suis bien obligé de rédiger le rapport que m'a demandé mon patron, même si ça me prend toute la nuit. Je suis bien obligé d'accepter qu'il y ait des responsables dans l'Église, car je ne souhaite pas moi-même prendre ces responsabilités, ou alors j'ai des dons spirituels qui sont d'autre nature. Mais la soumission, ce n'est pas accepter ce qu'on ne peut pas changer parce qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est de la résignation, derrière laquelle il peut y avoir beaucoup d'orgueil. Je le fais, mais si c'était moi qui décidais... Je vous laisse compléter la phrase. Non, la soumission, elle a davantage à voir avec l'humilité. Elle a à voir avec l'obéissance, le respect d'un ordre établi et voulu par Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une soumission du cœur, humblement, librement acceptée et consentie. L'exemple parfait de soumission, c'est celui que Jésus-Christ nous a laissé. Lui qui avait la puissance et le pouvoir de renoncer à mourir sur la croix, lui-même a accepté d'obéir à son Père, à qui il a dit « Que ta volonté soit faite, et non la mienne ». C'est dans les traces de cet exemple parfait que nous devons cheminer. Mais avant cela, posons-nous la question de « Pourquoi existe-t-il des autorités ? A-t-on vraiment besoin d'un chef d'État, qu'il soit roi, empereur ou président ? Est-ce vraiment la volonté de Dieu, le plan créateur de Dieu, qu'il y ait des autorités ? Eh bien oui, oui. Dieu a voulu structurer et ordonner la création. Dieu est contre l'anarchie. Il a créé un monde du néant et un monde dans lequel il y a un ordre, car cela reflète sa nature même. Oui, il y a un ordre au sein même des personnes de la Trinité. Le Fils est engendré par le Père et l'Esprit procède du Père et du Fils. Les personnes de la Trinité s'énoncent dans cet ordre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comme on l'a déjà vu, le Fils est parfaitement soumis au Père à qui il a dit que ta volonté soit faite. Et le Saint-Esprit, quant à lui, œuvre non pour attirer la gloire sur lui, mais pour glorifier le Père et le Fils. L'ordre est donc constitutif de la nature même de Dieu. Il est donc naturel que Dieu crée avec ordre et qu'il se plaise à ce que ses créatures soient soumises à l'ordre établi. Et le verset 2 nous met d'ailleurs en garde en nous montrant la gravité de l'insoumission. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Là, j'ai cité le texte. Cela veut donc dire que notre soumission aux autorités procède de notre soumission à Dieu. Si nous sommes soumis aux autorités, c'est parce que nous sommes d'abord soumis à Dieu, qui règne sur sa création, et aussi parce que les autorités lui sont soumises. Dieu est en quelque sorte le patron du patron. C'est le père de tous les parents, le chef de l'Église. Il est notre autorité ultime, et il désire notre bien. Et c'est là notre deuxième point. Les autorités ont été instituées par Dieu pour notre bien, pour que nous pratiquions le bien, pour faire triompher la justice et punir les malfaiteurs. C'est ce que l'on voit dans les versets 3 à 5. Alors nous reviendrons bien sûr sur la question des gouvernements qui pratiquent le mal et se demander si on doit leur être soumis. Mais en attendant, heureusement que nous avons un gouvernement, heureusement que nous avons un système judiciaire, heureusement que nous avons une police, heureusement que nous avons qu'on dispose du GIGN, des forces spéciales, d'un système de renseignement qui a permis de venir à bout des terroristes qui ont attaqué notre pays en janvier dernier. Et ceux-là même qui scandaient il y a quelques années CRS-SS applaudissaient les policiers qui avaient vaincu le mal d'une certaine manière. Toutes les autorités sont là pour notre bien. Autrement, on vivrait dans l'anarchie, avec la peur constante d'être écrasé par quelqu'un de plus fort. C'est une bonne chose qu'il y ait des chefs. C'est une bonne chose qu'il y ait des PDG et des conseils d'administration dans les entreprises. C'est une bonne chose qu'il y ait des anciens dans l'église. C'est une bonne chose que les parents imposent des règles à la maison, comme par exemple de limiter parfois le temps passé devant l'ordinateur ou les jeux vidéo, ou d'imposer une heure de coucher. C'est pour le bien de leurs enfants, pour qu'ils utilisent à bon escient le temps dont ils disposent. C'est une bonne chose d'avoir des parents à qui l'on doit obéir. Cela ne veut pas dire qu'ils prennent toujours les bonnes décisions. Mais cet ordre est nécessaire, et il est là pour notre bien. Si j'ai un chef, c'est pour mon bien. Et ça peut changer la vie de voir les choses sous cet angle. Ne pas voir les autorités comme un organe répressif, mais pour notre bien, pour notre édification, pour notre croissance. Dieu a établi les autorités pour notre bien. Cela veut aussi dire que si vous êtes en situation d'autorité, si vous êtes juge, élu locaux, magistrat, pasteur, ancien, cadre d'entreprise, professeur, votre but doit être de faire le bien, de promouvoir le bien, de poursuivre la justice. Alors il se pose bien sûr la question des autorités iniques, des autorités qui bafouent la loi de Dieu, qui promeuvent le mal. Et les exemples sont malheureusement légion dans l'histoire. Cela ne veut pas dire qu'elles auraient échappé à la souveraineté de Dieu. Bien au contraire. Jésus a répondu à Ponce Pilate, qui lui rappelait qu'il avait le pouvoir de le crucifier ou de le relâcher. Ben Jésus lui a répondu en Jean 19, 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Dieu est souverain sur les bons comme sur les mauvais. Et dans l'histoire, Dieu s'est servi de nations mauvaises, de nations païennes, idolâtres, pour accomplir ses jugements. Il s'est servi du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, un des plus grands tyrans de l'histoire. Il l'a utilisé pour punir son peuple élu, qui lui était infidèle. Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem. Il a fini par prendre la ville, la détruire. Il a tué beaucoup de monde. Et finalement, il a emmené le reste de la population en déportation à Babylone. Et dans cette population figurait le prophète Daniel, qui a écrit l'un des livres de la Bible. Et ce livre nous relate un événement de la vie de Nebuchadnezzar qui témoigne de la souveraineté absolue de Dieu. Dieu avait utilisé Nebuchadnezzar pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses jugements envers son peuple élu. Mais un jour, Dieu a permis qu'il soit destitué de sa royauté, qu'il soit puni pour son orgueil, qu'il soit chassé dans les champs et qu'il devienne comme un animal. Lui, le puissant roi de Babylone, a brouté l'herbe des champs comme un bœuf parce que Dieu l'avait décrété. Mais après un temps déterminé par Dieu, la raison lui est revenue. Et Daniel 4 nous rapporte que Nebuchadnezzar a alors loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il a reconnu que c'était Dieu seul qui régnait éternellement. C'est Dieu seul qui donne et qui reprend. Dieu donne et Dieu reprend. Dieu est souverain sur toutes les autorités. Daniel 4, 32 nous dit « Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et il le donne à qui il lui plaît. » Alors l'État abuse parfois de son pouvoir et heurte les convictions chrétiennes, c'est une réalité. On a déjà parlé de l'exemple du régime nazi. La Bible souligne alors qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est la réponse qu'ont formulée en Actes 5:29 les apôtres à qui les autorités juives voulaient empêcher de parler de Jésus. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On obéit en premier au patron du patron. Mais la question délicate doit se poser en conscience. À partir de quand désobéir? Et comment manifester cette désobéissance? Alors la réponse à cette question demande beaucoup de sagesse. Nous avons des exemples dans l'histoire de désobéissance justifiée et pacifique. Vous connaissez certainement la désobéissance non violente de Martin Luther King pour faire valoir les droits de la population noire aux États-Unis. Paul, lui, il écrit aux Romains sous le règne de Néron. Et même si les chrétiens n'étaient pas encore persécutés au moment de la rédaction, il leur dit de respecter les autorités romaines. Mais y a-t-il une limite? Oui. Aussitôt après ce passage vient le verset 8, qu'on n'a pas lu mais qu'on va lire maintenant. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Avec l'État, on peut être en règle, on peut être quitte. Mais il y a un devoir avec lequel on n'est jamais quitte devant Dieu, celui d'aimer notre prochain. On ne peut jamais, sous prétexte de respecter les autorités, nous dispenser du devoir d'aimer notre prochain. Et en terminant par ce verset, par ce commandement, Paul nous indique que c'est ce commandement-là qui doit avoir le dernier mot. Il ne nous est pas demandé une soumission absolue, mais un respect de l'État dans sa mission régulatrice. Le livre de l'Apocalypse incite même à une résistance spirituelle face à un État qui demanderait une loyauté excessive et qui s'érigerait en tant que Dieu. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 13. Un ami me racontait une expérience qu'il avait vécue lors de son service militaire. Il était chasseur alpin et un supérieur lui avait demandé d'aller dire au colonel de la caserne que le camion qui l'attendait était arrivé. Appelons cet ami Marcel. Donc Marcel se présente devant le bureau du colonel, frappe, ouvre la porte et dit « Mon colonel, le camion est arrivé ». Le colonel lève la tête et lui réplique « Chasseur, vous ne vous êtes pas présenté ». En effet, il n'avait pas respecté le protocole. « Ah, mon colonel, je pensais que pour vous dire que le camion était arrivé, chasseur, un chasseur ne pense jamais. » Est-ce que c'est cela qui nous est demandé en tant que chrétiens, une obéissance absolue et ne pas penser? Non. En l'occurrence, dans cette histoire, Marcel avait tort, il n'avait pas respecté le protocole. Et il avait d'une certaine manière désobéi. Il méritait une remontrance, car un soldat obéit. Mais c'est la réponse du colonel qui est choquante. Au lieu de lui faire simplement remarquer son oubli, il ajoute qu'il ne devrait même pas penser. Méfions-nous des autorités qui nous demandent de ne pas penser, de ne pas réfléchir et d'obéir aveuglément. Le verset 5 fait appel à notre conscience. Notre obéissance ne nous enlève pas notre conscience. Et enfin, ce texte termine en nous disant qu'en bon citoyen, le chrétien paye l'impôt. Au verset 6 et 7. Alors faire le bien, ne pas faire le mal, pour ne pas avoir affaire à la justice, respecter les autorités et ne pas dire du mal d'elles, ok, on peut le faire. Mais payer des impôts, là ça fait mal, là c'est dur. Et c'était certainement une réticence des premiers chrétiens de payer l'impôt à une autorité païenne et idolâtre. Mais Jésus, encore une fois, y répond très simplement par cette célèbre formule « Rendez à César ce qui est à César » et à Dieu, ce qui est à Dieu. Soumission ne veut pas dire se résigner à payer l'impôt. J'ai pas le choix, je veux pas avoir affaire à la justice de mon pays, alors je paye l'impôt. Non, Dieu demande de le payer délibérément, j'aurais envie de dire avec joie, en étant heureux de le payer. C'est pas du tout mon cas. Mais à l'heure où l'on remplit les déclarations de revenus, alors j'en profite pour vous rappeler qu'il vous reste que quelques jours pour les remplir sur Internet. Si vous vouliez les remplir en version papier, c'est déjà trop tard. Mais j'en profite pour nous interroger sur notre état d'esprit lorsque nous serons amenés à payer cet impôt. Et si vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur le revenu, sachez que vous payez tout de même des impôts, comme par exemple la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est fixée à 20% sur la plupart des produits, et qui fait que dès que l'on achète quelque chose, l'État reçoit 20% du prix en impôt. Et je dois dire que j'ai râlé intérieurement lorsque nous avons fait quelques travaux dans notre appartement et que les artisans nous ont remis des devis sur lesquels figurait le prix hors taxe et le prix avec taxe, et que je voyais la différence. D'ailleurs, les artisans proposent souvent de s'arranger. Vous me payez en liquide, on ne le déclare pas comme ça, les 20%. Mais que répond-on en tant que chrétien? Eh bien, on répond non. Dieu nous demande de payer les impôts, de rendre à César ce qui est à César. L'impôt permet d'assurer le fonctionnement de l'État. Il permet de payer les serviteurs de Dieu, les maires, les magistrats, etc. Alors bien sûr, ça nous fait bizarre de nous dire qu'ils sont des ministres de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Mais ce sont bien les termes qui sont employés au verset 4 et 6. Alors voir le pasteur comme un ministre de Dieu, comme un serviteur de Dieu, d'accord, pas de problème. Mais le maire de Lyon, les magistrats, notre premier ministre, les députés, nos secrétaires d'État, les voir comme des serviteurs de Dieu, là on a envie de dire c'est un peu fort. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, l'apôtre Paul. Mais ce que Paul dit ne vient pas de nulle part. S'il tient de tels propos, c'est parce qu'il a tout expliqué juste avant. Les autorités politiques et judiciaires sont des ministres de Dieu car c'est Dieu qui les a établis dans sa souveraineté et parce qu'ils servent Dieu, alors probablement sans le savoir, mais en ce qu'ils sont institués pour faire valoir le bien et la justice. Et cela est une œuvre de Dieu. Bien sûr qu'ils font aussi le mal, ils sont pécheurs, comme nous. Ils nous ressemblent, c'est triste, mais ils nous ressemblent. Et en tant que chrétiens, ce n'est pas parce que nous péchons que nous ne sommes plus enfants de Dieu. Eh bien, ce n'est pas parce que nos autorités font parfois le mal qu'elles ne sont pas serviteurs de Dieu pour autant, qu'elles cessent d'être serviteurs de Dieu pour autant. Et puis, tout travail mérite salaire. Et l'impôt est légitime pour payer ces hommes et ces femmes. De nos jours, l'impôt permet d'assurer le fonctionnement de l'État, mais aussi celui de l'éducation nationale, de la santé. Alors à l'époque, la lettre a été écrite, croyez-moi que l'argent qui était donné en impôts, la population ne voyait pas la couleur. Il servait surtout à payer les dirigeants romains et l'armée. Mais il n'apportait pas franchement de bénéfices à la population. Et c'est dans ce contexte que cette lettre a été écrite. Alors même qu'aujourd'hui, l'impôt sert à l'éducation et à la santé, on est quand même réticent à payer l'impôt. Ça nous fait mal de mettre la main à la poche, comme on dit, la main au porte-monnaie. Mais c'est certainement par égoïsme qu'au fond, on aimerait bien pouvoir se soustraire à l'impôt. Notre réticence à payer l'impôt est peut-être davantage motivée par notre égoïsme plutôt que l'idée qu'en payant l'impôt, on participe au paiement des IVG ou des guerres et que cela nous dérange. En tout cas, je dois vous avouer que c'est mon cas. Bien sûr, on a notre mot à dire sur l'utilisation de cet impôt. C'est légitime. Mais à l'heure où nous allons bientôt payer l'impôt, en tout cas l'impôt sur le revenu, dans quel état d'esprit allons-nous remplir le chèque avec la somme qui sera exigée de nous dans quelques mois? Quelle sera notre attitude lors de l'offrande? Lors de la collecte, qui a déjà lieu, mais qui aura lieu aussi tout à l'heure? C'est aussi une forme d'impôt, alors totalement libre, mais là il sert directement l'Église. Et la Bible nous dit de donner avec joie. Alors, on parle de l'impôt parce que c'est un point important qui est soulevé dans ce texte, mais il parle aussi d'honneur. Le salaire d'une autorité, c'est aussi l'honneur qu'on lui donne. Alors, quel honneur réserve-t-on à nos autorités lorsqu'il nous arrive de les rencontrer? Quel honneur réserve-t-on à nos parents? Quelle crainte avons-nous d'eux? Quel honneur réserve-t-on aux pasteurs, aux anciens? Pasteur, il a encore dit que... 1 Timothée 5, 17 nous dit même que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, je ne parle pas pour moi, là je suis un intermittent et je me prêche à moi en premier. On va à présent conclure sur ce passage. Alors, on pourrait s'arrêter là pour la prédication d'aujourd'hui. On pourrait s'arrêter en disant, le chrétien est un citoyen obéissant et respectueux, clap, on ferme la Bible, bon dimanche à chacun. Mais le risque, si on termine ainsi, c'est qu'on retienne l'idée que pour être un bon chrétien, pour paraître chrétien, il suffit d'être obéissant et respectueux. Et ça, c'est faux. Parce que ça laisserait penser que notre salut, notre statut de racheté, notre titre d'enfant de Dieu, de chrétien, de petit Christ, littéralement, s'acquiert par notre mérite. Et ça, c'est faux. Être obéissant ne suffit pas pour plaire à Dieu. Être obéissant et respectueux des autorités et payer ses impôts ne sauvera personne de l'enfer, de la damnation éternelle, de la séparation d'avec Dieu. Là, on a lu le début du chapitre 12, mais il y a 12 chapitres avant, dans lesquels l'apôtre Paul nous rappelle ce qui nous sauve, et c'est que Christ a payé lui-même la dette. C'est qu'il y a 2000 ans, Jésus, Fils de Dieu, sans péché, a pris notre place sur la croix. C'est nous qui aurions dû mourir sur cette croix pour payer nos fautes. Et notre obéissance respectueuse est largement insuffisante pour régler la facture, pour régler la dette du péché, le prix de la séparation d'avec Dieu. Notre obéissance est insuffisante pour plaire à Dieu. C'est seulement lorsque l'on accepte que Jésus est mort à notre place sur la croix et qu'il est ressuscité en vainqueur que l'on est sauvé, par l'intermédiaire de ce que Jésus a fait. À ce moment-là, on devient enfant de Dieu. On témoigne qu'on accepte l'autorité de Dieu. Et là, Dieu nous demande d'être soumis aux autorités qu'il a établies, car nous avons accepté de lui être soumis à lui, à Dieu, en premier. Je vous invite à la prière. Seigneur, ô combien tu m'as repris par l'étude de ce texte, et j'imagine que je ne dois pas être le seul. Aide-nous vraiment à être soumis aux autorités, comme tu nous le demandes. Donne-nous cette humilité qui nous fait tant défaut. Viens en aide à nos cœurs égoïstes et transforme-les par la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous. Mais plus que tout, nous voulons te remercier car tu ne regardes pas à nos performances, à notre obéissance, à nos œuvres pour faire de nous tes enfants, mais tu nous vois au travers du sacrifice de Christ, de Jésus ton Fils bien-aimé, qui est mort à notre place sur la croix. Merci Seigneur pour cette vérité qui nous libère. Amen.